Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Arrêt sur Image. Après Gaza et l'Iran, c'est désormais le Liban qui croule sous les bombes israéliennes et voit son territoire amputé et partiellement occupé par Israël. L'offensive lancée le 2 mars a déjà fait plus de 2500 morts et 7000 blessés et plus de 500 000 déplacés. C'est le mot poli pour désigner les Libanais jetés sur les routes ou dans des camps de fortune. Il y a presque deux ans, avec mon invité du jour, nous avions analysé sur ce même plateau le traitement médiatique de la guerre d'anéantissement menée à Gaza par Israël. Et forcé de constater que rien ou presque n'a changé. Fascination du militaire, tapis rouge déroulé aux représentants israéliens, effacement méthodique des vies libanaises fauchées par la guerre et simplification à outrance. La démocratie d'un côté, les terroristes du Hezbollah de l'autre. Les médias audiovisuels, parce qu'il faut dire ici que la presse écrite relève le gant, peine toujours à dire ce qu'il se passe. Une guerre d'agression et l'annexion pure et simple d'une partie du territoire libanais où vivent des dizaines de milliers de personnes de facto soumises à l'autorité d'Israël. Bonjour Ziad Majed.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Moyen-Orient, et je mentionne votre dernier livre, Le Proche-Orient, miroir du monde, paru l'année dernière aux éditions La Découverte. Je le disais, Ziad Majed, vous êtes venu à l'été 2024, ici même, dans ce fauteuil, pour parler de Gaza. Est-ce que j'ai grossi le trait en disant que finalement rien n'avait changé dans les médias français ?
Non, malheureusement, vous avez tout à fait raison, puisque on continue à assister à un génocide qui maintenant est un peu invisibilisé par les médias, mais qui se poursuit. Puisque le blocus est toujours là, puisque des centaines de milliers de Gazaouis vivent toujours dans des tentes, parfois sans eau potable, sans toilette, les conditions d'hygiène sont terribles, les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a également un blocus sur les médicaments qui ne rentrent pas comme il faut que dans n'importe quelle société du monde, il y ait accès à ces médicaments. Et il y a plusieurs organisations internationales qui continuent à invoquer la question du génocide, de son impact et de toutes les conséquences aussi psychologiques sur les victimes, sur les survivants, sur toute une génération de Gazaouis qui aujourd'hui vivent dans la ruine. Et il me semble que là, cette question de ruine est importante parce que la politique de la ruine est devenue une politique israélienne à travers la région, surtout dans les territoires de Gaza, étant donné qu'il y a des enfants qui ont aujourd'hui 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ne connaissent que la ruine, qui ne connaissent que les destructions. Ils ne peuvent pas réaliser ce que veut dire un chez-soi. Ils ne connaissent pas comment était l'école avant d'être en partie bombardée, démolie ou endommagée. Ils ne connaissent pas les rues, ils ne connaissent pas les places publiques. Ils ne voient que des tentes et des ruines et ne voient que des déplacements forcés, qu'un changement d'environnement. Et ça, c'est très important et en même temps très pénible puisque un enfant sans repère au niveau de l'espace, au niveau des relations sociales qui se construisent dans un espace, sera toujours perturbé. Et l'idée d'une ruine aussi, c'est de rendre la reconstruction un processus difficile qui prend du temps, qui va causer du bruit, de la poussière, encore des déplacements. Et après, on ne sait même pas comment la gestion des nouvelles constructions va être faite, par qui, ça va prendre combien de temps, quels sont les acteurs qui vont imposer leurs lois. Donc la question du génocide et la question de rendre une zone inhabitable ou du moins extrêmement difficile à vivre, à survivre, à occuper comme espace vivant et humain, elle est là et les Israéliens maintiennent la pression sans que cela ne suscite la couverture nécessaire par beaucoup de médias.
Alors, c'est ce que vous avez défini très tôt à Gaza comme un urbicide.
Oui.
Vous avez réutilisé ce mot pour le Liban. Je voudrais qu'on voit des images qui ont été diffusées par l'armée israélienne elle-même, qui montrent, dans une propagande assez macabre, on voit les images juste là, comment elle détruit, là c'est au sud Liban, donc des villages entiers. Ces images-là, on a l'impression de voir finalement l'impunité en images, quoi. C'est-à-dire qu'Israël publie ses propres crimes de guerre.
Oui, c'est ça qui est extrêmement frappant dans cette histoire. Et moi, je connais très bien ces villages et je suis passé à maintes reprises dans leur place et visité des amis là-bas. L'idée, c'est non seulement de commettre l'acte de violence inouïe qui est la destruction de maisons, qui est la destruction de souvenirs, d'histoires, de lieux communs, de connexions entre les gens, mais en plus de l'afficher et de vous montrer à quel point vous êtes impuissant face à cette décision de détruire et à quel point ceux qui détruisent sont impunis, qu'ils sont intouchables et qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. D'ailleurs, le ministre de la Défense lui-même avait annoncé qu'il allait transformer une partie du sud Liban en Rafah et Khan Younes, en référence aux villes palestiniennes urbicidées. Le premier ministre israélien avait dit que les déplacés de ces régions-là n'auront jamais le droit de revenir. Et donc, après, il va négocier, évidemment. Certains des responsables israéliens ont même parlé de la nécessité d'annexer, de rendre soit la zone no man's land, une zone sans humains, ou même certains qui vont jusqu'à la colonisation, mais ça c'est les plus extrêmes, les plus extrémistes des extrémistes au pouvoir maintenant. Pour revenir à l'image, voyant parfois les réactions de certains originaires, de certains Libanais originaires de ces villages-là, il y a à la fois la douleur, il y a le choc, et c'est une guerre psychologique que mène Israël en parallèle de la destruction, et qui est un crime de guerre, puisqu'il n'y a aucune utilité militaire. On voit que le dynamitage s'est fait sans combat, sans bombardement, c'est juste une volonté d'une manière systématique de détruire toutes les traces de vie, d'effacer l'histoire de cette région et de dire aux gens que leur présent appartient maintenant à cette histoire et que l'avenir, il va être dicté par ce que veulent les Israéliens, parce qu'ils occupent, et parce que pour permettre un retour et une reconstruction, il faudra demander leur permission, leur autorisation. Donc on est face à l'impunité, à un crime de guerre, à un urbicide affiché, et il est à la fois, il est en parallèle avec d'autres vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, de soldats israéliens fiers de voler, de piller les maisons, les écrans de télévision, les ordinateurs, les bijoux, rentrer dans l'intimité des gens, ouvrir leurs tiroirs, ouvrir leurs placards, cuisiner dans leur maison. Donc c'est encore une fois cette puissance de l'impunité, de la domination et du viol, dans le sens où on est dans ce qui est de plus intime, le chez-soi, qu'on pille, qu'on contrôle, on décide ce qu'on va faire, et on est dans les affaires des autres. Et ça révèle beaucoup sur ceux qui le commettent comme crime et sur l'impunité qui est surtout due à des complicités internationales.
Alors, j'allais y venir, parce que quand on voit ces images, on se dit en effet, soit Israël n'a plus aucune barrière, c'est-à-dire publie elle-même ses crimes de guerre, et dans ce cas-là, bon, on est face à un État qui assume entièrement de commettre ces crimes. Mais par contre, on se demande pourquoi de l'autre côté, en voyant ça, on a encore des débats. C'est-à-dire qu'on se dit, là, l'image vient du coupable. C'est-à-dire qu'on a un aveu et pourtant, on en est encore à débattre de « Ah, mais pourquoi cette guerre ?»
Moi, je pense que le laboratoire de violence qu'a été la guerre à Gaza, avec le génocide, l'urbicide, le domicide, l'écocide, l'éducide, tous les sites qu'on avait expliqués et qui montrent à quel point il y a une dévastation de la vie palestinienne, on a… tout en niant parfois l'existence de ces crimes, on a en même temps normalisé. Et les Israéliens eux-mêmes considèrent qu'après tout ce qui a été fait à Gaza, sans qu'il y ait des conséquences, sans qu'il y ait des sanctions, sans même que certains Européens n'arrivent à accepter la nécessité de suspendre des accords de coopération qui donnent beaucoup de privilèges à l'économie israélienne.
– C'est en discussion au sein de l'Union européenne.
– Exactement.
– On sent bien qu'a priori, ça ne va pas aboutir à une
aboutir.
Suspension.
– Aboutir, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de sanctions malgré tout ce qui s'est passé. Encore plus avantageux à l'impunité, ce qui s'est passé au niveau de la Cour pénale internationale. Parce que Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Gallant, sont sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité. Donc en principe, ce sont des personnes qui sont recherchées pour avoir commis au moins des crimes contre l'humanité. On parlait de la famine dans le rapport qui stipulait la nécessité de les arrêter. On parlait du blocus, on parlait de l'usage disproportionné de la force contre des infrastructures, ce qui a tué des milliers de civils. Donc, malgré cela, non seulement il n'y a pas eu de mesures pour respecter ces mandats d'arrêt, mais en plus, les juges qui ont émis les mandats d'arrêt et le procureur général ont été eux-mêmes soumis à des sanctions américaines qui rendent leur vie extrêmement difficile, de même que la rapporteure spéciale des Nations Unies indépendante, Francesca Albanese, qui est elle-même soumise à des sanctions. Et ces sanctions-là n'ont pas créé non plus des réactions européennes, des réactions par rapport à la nécessité de respecter l'indépendance, la souveraineté d'une des institutions judiciaires les plus importantes au monde. Et je pense que cela a eu des conséquences également qui prolongent pour le moment les discussions autour du crime de génocide au niveau de la Cour internationale de justice suite à la plainte de l'Afrique du Sud. Donc cette impunité-là, qui pendant très longtemps a protégé les Israéliens, le fait qu'ils savent qu'au niveau du Conseil de sécurité, il peut y avoir un veto américain qui les soutient, le fait que les Européens ne proposent pas une alternative crédible et éthique et basée sur le droit international s'agissant de cette région du monde, sachant que plusieurs pays arabes, régimes arabes aussi, sont silencieux ou dans la peur des réactions de Donald Trump, ils continuent aujourd'hui au sud Liban. Et la catégorie qui a été mise en place depuis 2001 au niveau mondial, celle du terrorisme, celle de considérer chaque ennemi terroriste pour justifier toutes sortes de crimes, y compris contre les populations civiles, tant qu'ils sont les boucliers, comme on dit, de ces terroristes, Israël se justifie et poursuit. Et ça choque peu. Ou du moins, ça choque les gens qui sont déjà engagés et évidemment une partie des personnes sensibles à tout ce qui est universel et humain.
Alors justement, sur cette communication d'Israël, on va écouter Olivier Rafovitz, qui est porte-parole de l'armée israélienne, qu'on connaît bien ici parce qu'on a beaucoup étudié son discours et qui est invité quasiment tous les jours sur les chaînes d'info. Là, il est sur BFM TV et il justifie le bombardement de la banlieue de Beyrouth.
Alors, si on parle de chiffres, jusqu'à maintenant, avant cette opération, je vais y arriver, il y a 1200 membres du Hezbollah qui ont été éliminés par Tzal dans des frappes très précises, avec des renseignements très précis. Le but ici est en aucun cas de faire la guerre au Liban ni aux Libanais. D'ailleurs, le gouvernement libanais le sait, le président libanais le sait très bien. Le problème, c'est le Hezbollah. Le problème, ce n'est pas Israël. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens au Liban qui sont très contents qu'Israël fasse sale boulot de débarrasser le Liban du Hezbollah, qui est un véritable cancer à l'intérieur du Liban et qui pose problème aux Libanais. Maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une frappe qui s'est préparée en 30 secondes. On parle ici d'une frappe extrêmement sophistiquée avec 50 appareils, plus de 100 frappes dans trois endroits différents, le sud Liban évidemment, la région de Beyrouth, et je vais y venir un instant, et également la vallée de la Beka. Trois centres où il y a des dizaines et des dizaines, même des centaines de membres du Hezbollah qui ont été touchés, en partie tués. On n'a pas encore tous les résultats de ces frappes au niveau des éliminations. Mais à la différence, par exemple, de l'opération des Beepers que vous connaissez, qui s'est passée il y a un an et demi, où de très nombreux membres du Hezbollah avaient été touchés, dans l'opération d'aujourd'hui, ce sont des commandants du Hezbollah, en grande majorité, qui ont été touchés par l'opération.
Mais Olivier Rafovitz, j'entends ce que vous nous dites, mais ça colle pas complètement avec les images que l'on voit. Quand vous parlez de frappes extrêmement ciblées sur les combattants du Hezbollah, etc., nous, ce que l'on voit d'ici, et ce que nous racontent nos envoyés spéciaux à Beyrouth, ce sont notamment des immeubles entiers qui sont ce soir par terre, et avec un bilan, encore une fois, qui est dramatique du côté libanais.
Le bilan est un bilan qui est, je l'espère, à près de 100% relié au Hezbollah.
Bon, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, on pourrait remplacer Liban par Gaza et Hezbollah par Hamas. On aurait exactement les discours que tenait Olivier Rafovitz il y a deux ans. Enfin, en tout cas, qui tient depuis deux ans. La question de Maxime Switek, qui est journaliste de BFM, qui dit « mais ça colle pas avec ce qu'on voit », est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'en fait, il faut encore inviter Olivier Rafovitz ou d'autres porte-parole, mais c'est en général lui qui tient ce rôle, ou est-ce que vous dites, en fait, ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'on ne parle même plus la même langue, quoi.
Oui. Non, moi, je pense que c'est scandaleux qu'on retrouve régulièrement ce monsieur porte-parole d'une armée que certains accusent de génocidaires, que d'autres au moins accusent d'avoir commis des crimes contre l'humanité, dont les preuves sont tellement visibles au niveau des chiffres, comme au niveau des destructions, au niveau des vies humaines et de tout ce que constitue un humain qui perd sa vie. On parle de plus de 70 000 civils à Gaza. Selon l'armée israélienne, plus de 2/3 sont des civils. On parle de centaines de journalistes tués, on parle de centaines d'aides-soignants, de médecins, de secouristes, d'infirmiers, infirmières qui ont été tués. Donc rien ne colle évidemment de ce qu'il raconte à la réalité des choses, que ce soit à Gaza ou lors de ces frappes à Beyrouth, où je me suis rendu sur les lieux, les bâtiments qui se sont écroulés, les personnes et les familles entières qui ont été tuées. Une jeune femme est restée sous les décombres à Ain Mraïsé, un quartier de Beyrouth, pendant des jours sans que les secouristes puissent la retrouver, et une partie de sa famille a été anéantie. Donc on parle aujourd'hui aussi au Liban de plus de 2400 ou 2500 morts, en plus des centaines de milliers de gens qui ont été de force déplacés et qui ont perdu leur maison, leur domicile. Donc je trouve scandaleux qu'un porte-parole d'une armée qui est en guerre et qui détruit et qui est accusée de tous les crimes possibles soit toujours l'invité et soit toujours sur les écrans et soit toujours dans les salons des Français et des Françaises pour leur raconter une propagande qui n'a rien à voir non seulement avec la réalité, mais il fait son travail de propagandiste de son armée. Donc je ne vois pas pourquoi, pour des raisons journalistiques, politiques, juridiques, il doit être présent. Et quand ce n'est pas lui, il y a l'ambassadeur qui peut être invité. Et rarement il y a des questions qui les contredisent, qui les mettent en difficulté. Tant mieux que le journaliste lui a dit que les images ne donnent pas sens à ce que vous dites, mais quand même, quand on a ce genre de propagande et quand on sait qu'en réalité, il y a des Libanais, des Libanaises qui ont été tués comme des Palestiniens et des Palestiniennes avant, honnêtement, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'ils nous offrent au niveau du savoir, au niveau de la compréhension de la situation? Et je trouve que, en plus du fait qu'il y a ce porte-parole de l'armée, en général, il y a de plus en plus de commentaires qui reprennent la terminologie israélienne, qui reprennent une terminologie militaire qui est sans aucun aspect parlant de la société, parlant des victimes, un langage qui parle de nettoyage, qui parle de cibles, qui parle de terroristes, qui parle de boucliers humains, qui parle de dégâts collatéraux, qui parle de sécurisation d'une zone, bien qu'il s'agisse de vie humaine, de personnes tuées, blessées, de personnes qui perdent leur maison, leur domicile, leur avenir dans un sens, et des sociétés déchirées. Et après, évidemment qu'il fait aussi sa propagande par rapport aux divisions libanaises. Il y a évidemment des divisions libanaises aujourd'hui, politiquement parlant, par rapport au rôle de Hezbollah. Mais ceci dit, il utilise ces divisions politiques au sein du Liban pour justifier des destructions, des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité dans le pays.
– Alors sur la reprise du jargon militaire, on en a eu un très bon exemple avec cette fameuse zone tampon. Oui. On va voir défiler quelques titres qui sont parus dans la presse française. Alors parfois avec des guillemets, ici on a France 24, parfois sans, on va le voir, France Info ne met pas de guillemets, Le Monde ne met pas de guillemets. En fait, cette zone tampon, si on peut afficher la carte maintenant, c'est une zone d'occupation qui permet par ailleurs de rappeler aussi qu'Israël occupe toujours une partie de la Syrie.
Oui.
Qui est aussi, on parle beaucoup moins de la Syrie depuis quelques années parce qu'on a l'impression que c'est sorti de l'actualité, mais une partie du territoire syrien est toujours occupée par Israël. Et donc on voit, alors il y a deux zones, c'est une carte qui a été réalisée par nos confrères de L'Orient Le Jour. La zone hachurée en noir, donc, c'est la fameuse zone tampon qu'Israël souhaiterait instaurer, qui est en fait une sorte de zone pseudo-démilitarisée, pas de leur côté évidemment, mais en tout cas du côté libanais, et la zone qui est orange, au sud, du fleuve et à l'est du fleuve Litanie, qui est la zone où Israël voudrait, en fait, évoluer à sa guise.
Oui, absolument.
Mais qui est en fait donc une occupation.
Oui, alors la zone dite tampon, c'est une zone occupée, qui est en plus, c'est là où il y a le dynamitage des maisons, des villages et des villes parfois, parce que Bent Jebel et Khiyam ne sont plus des villages, sont des véritables villes. Donc c'est une zone qui va de la mer Méditerranée jusqu'aux frontières presque du Golan syrien occupé. On a plus de 55 villages qui ont été déjà rasés, totalement démolis. Il y a dans cette région aujourd'hui l'armée israélienne qui s'est déployée. Donc c'est une zone occupée. En fait, l'idée de ne pas utiliser le terme occupation, qui fait référence à une violation du droit international, de ne pas utiliser en Palestine des termes comme apartheid ou comme colonisation, pourtant documentés même par les organisations de droits humains israéliens, mais évités par certains médias français, n'en parlons pas de la question du crime de génocide. Mais ne pas parler d'occupation relativise les choses, parce que zone tampon, un terme tellement neutre, on ne voit pas derrière les dizaines de milliers de Libanais qui ont été déplacés, dont des centaines ont été tués ou blessés. On ne voit pas leurs biens saisis, volés ou totalement démolis. De loin, même les explosions ne montrent pas la réalité de la perte. Imaginons en France juste des maisons où on a toutes nos affaires, nos livres, nos vêtements, nos lettres, nos secrets, qui en quelques secondes partent en poussière. C'est un terme imposé par Israël qui cherche à donner une impression qu'on est juste dans une zone d'opération où il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'histoire, et on rend cette zone sécurisée, on éloigne Hezbollah de la frontière israélienne, et c'est normal. En plus, il y a le reste du sud Liban, du côté du sud de Litanie, comme vous avez dit, et de son est, c'est là où Israël souhaite avoir la possibilité d'agir au moment où les militaires israéliens le décident. Ils vont bombarder, ils considèrent qu'il y a une cible légitime, donc ils bombardent. Et on le voit, malgré le cessez-le-feu qui a été approuvé le 17 avril, il y a toujours des opérations. Il y a chaque jour 4 à 5 morts du côté libanais. Souvent, parmi ces morts, il y a des civils et des dizaines de blessés et encore plus de déplacements. Parce que certains qui sont revenus chez eux après le premier déplacement ont été déplacés de nouveau, ou bien ils ont trouvé des ruines et ils sont repartis en espérant qu'un vrai cessez-le-feu pourrait s'imposer pour qu'ils puissent revenir et vivre au moins dans leur terre, même si les maisons sont détruites. Donc, zone tampon, c'est un terme israélien qui cherche à éviter les conséquences d'un terme qui existe dans le droit international, qui est zone occupée. Et il me semble que dans certains médias français, on a occulté toute la terminologie du droit international et même la terminologie des sciences politiques, des sciences sociales. Cela a été remplacé par les termes militaires et par les termes de la propagande israélienne.
C'est ce que vous dites. Vous dites que les sciences sociales ont disparu du discours. On ne parle plus d'histoire, on ne parle plus de politique.
Tout à fait.
On ne parle que de militaire, finalement.
Depuis le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a refusé la contextualisation, et on a refusé la nécessité d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés au 7 octobre en prétendant que cela allait justifier les actes du Hamas. Donc il y a eu une censure par rapport à un devoir de savoir et d'analyse et d'explication. Mettre le 7 octobre dans un contexte, parce que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, ni elle s'est terminée le 7 octobre. Il y a toute une histoire faite de guerres, de blocus, d'occupation, de brutalisation, de violation du droit international et d'impunité, exactement comme il y a au Liban toute une histoire qui a commencé bien avant la création de Hezbollah. Et certains qui disaient « oui, mais c'était les Palestiniens avant au Liban », mais qui a poussé les Palestiniens, qui les a expulsés et qui les a déplacés au Liban? Et même après leur déplacement au Liban en 1948, suite à la Nakba palestinienne et la création d'Israël, pendant 20 ans, les Palestiniens étaient dans une attente au Liban, dans les camps de réfugiés, en espérant le respect de la résolution onusienne 194 de 1949, qui stipulait leur droit au retour. Or, une nouvelle génération, avec la montée du mouvement Fatah de Yasser Arafat, de la gauche palestinienne, de l'OLP en général, a décidé de prendre les armes et de déclarer la lutte armée. Mais cela est arrivé à peu près 20 ans après l'expulsion des Palestiniens à travers les frontières des pays voisins, dont le Liban. Et Israël avait déjà frappé l'aéroport de Beyrouth en 1968. Un massacre dans le village de Houla avait eu lieu déjà en 1948 durant la Nakba en Palestine. Puis il y a eu toutes les incursions et les bombardements israéliens durant les années 70. Première invasion israélienne, 1978, Hezbollah n'est pas là. La révolution iranienne n'a même pas eu lieu. Le Shah d'Iran est toujours à Téhéran et il est allié d'Israël. 82, deuxième invasion israélienne jusqu'à Beyrouth et 20 000 morts civils libanais et palestiniens parmi les réfugiés. Hezbollah n'est pas là. Et après, c'est une histoire de lutte, de la montée de Hezbollah. Il est vrai que l'occupation israélienne seule n'explique pas la création de Hezbollah. Il y a aussi la volonté iranienne d'exporter sa révolution et de devenir un acteur régional. Il y a la sociologie politique du Liban qui fait que l'État central est faible, que la question confessionnelle est importante, notamment dans le contexte de la guerre civile, que les populations du sud Liban qui ont été déplacées à maintes reprises vers notamment la banlieue sud de Beyrouth, qui a été évoquée par le porte-parole de l'armée israélienne. Cette banlieue sud est constituée surtout de personnes qui ont quitté le sud Liban, soit pour des raisons économiques, les années 50 et 60 dans l'exode rural en général, soit à cause des agressions israéliennes des années 70 et de l'invasion de 82, et l'occupation pendant 22 ans d'une partie du sud Liban qui ressemble à l'actuelle zone occupée.
Oui, j'allais dire, on est quasiment revenu au...
À peu près, exactement. Ce qui montre aussi que toutes les guerres israéliennes et tous les crimes et l'occupation et les agressions, finalement, nous ramènent à la même réalité aujourd'hui comme il y a 40 ans ou comme il y a 50 ans, parce que la brutalité, la force, l'occupation, la destruction ne va jamais appeler la stabilité et la paix, ni mener à une vie normale dans la région. Donc, les sciences sociales, dans ce sens, quand on contextualise et on comprend d'où sont arrivées les guerres et pourquoi et qui sont les acteurs, comment ces acteurs ont muté, ont évolué, tout en rappelant aussi quelque chose qui a été totalement écarté par une grande partie des médias, notamment l'audiovisuel, le droit international, qui est devenu un point de vue. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit quelque chose, l'autre dit le contraire, et ça passe comme si on est face à des experts juristes qui travaillent sur la question. Le droit international a disparu, et il me semble aussi que par rapport au Proche-Orient, au monde arabe, aux sociétés arabes musulmanes, mais également à des sociétés africaines invisibilisées aujourd'hui, le droit international ne compte pas. Comme si ces gens-là sont exclus de tout ce qui a permis, après la Deuxième Guerre mondiale, de dire plus jamais en Europe, plus jamais aux États-Unis, plus jamais dans certaines parties de la planète, mais le plus jamais ne marche pas pour d'autres sociétés qui peuvent rester sous la merci des bombes et de l'impunité des agresseurs.
Mais ça, est-ce que vous pouvez le dire ailleurs ? C'est-à-dire qu'on vous a vu sur le plateau de C'est ce soir récemment, vous avez tenu à peu près le même discours, peut-être en plus court, mais et on a les réactions autour du plateau, c'était « mais comment vous pouvez dire ça ? Pourquoi oui. vous dites ça ?» Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réaction presque épidermique de dire oui. « mais non, c'est pas du racisme, qu'est-ce que vous racontez ?»
Alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être sincères dans la question, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas toujours compte de ce que cela signifie. De ce que signifie, par exemple, comment on parle d'une victime israélienne avec sa vie qui n'a pas été poursuivie, avec ses rêves, ses ambitions, avec son travail, avec ses proches, d'un côté, et de l'autre, considérer que les Gazaouis, c'est juste des chiffres, et en plus des chiffres qui sont « ah, mais ce sont les chiffres selon le Hamas », ou bien on n'est pas sûr, peut-être il y a des exagérations. Donc même réduire un humain palestinien à un chiffre nécessite après de mettre en doute la crédibilité du chiffre lui-même. On remplace une catégorie par, humaine par une catégorie mathématique qui nécessite après un questionnement sur sa légitimité et on rend un discours tellement normal par rapport aux sciences sociales, par rapport à l'histoire, par rapport à la science politique, presque un discours militant. Qui surprend, qui « mais pourquoi vous dites ça ?» etc. Donc, il y a des gens qui ne se rendent pas compte parce qu'ils sont baignés dans une culture qui a regardé l'autre d'une manière différente ou bien parce que dans certains discours, dans certains médias, et je ne parle pas là, c'est ce soir. Il y a aussi, dans d'autres médias ou d'autres programmes, il y a une volonté politique de soutenir Israël, de décrédibiliser la parole critique d'Israël. Et il y a une autocensure, parfois chez des journalistes ou chez des invités, qui ne disent pas ce qu'il faut dire, par crainte d'être sanctionnés ou certains par crainte de ne plus être invités. Donc, il me semble que...
Ça vous est arrivé, ça ? De plus être invité parce que vous auriez parlé un peu trop fort sur
le plateau ? Oui, je pense, parce qu'il y a des programmes qui m'invitaient, mais là, depuis un passage ou deux passages, ça n'a plus été le cas.
Et lesquels, par exemple ?
Il faut
Si vous voulez, oui, je ne vous force pas à le dire.
Non, c'est pas la peine.
Je vous le demande.
C'est pas une histoire personnelle et elle n'est pas importante, c'est-à-dire qu'il ne m'invite pas, il n'y a aucun souci. Mais il me semble que... On veut des invités qui donnent des versions capables de passer normalement, de donner une crédibilité parfois à des questions qui ne sont pas crédibles. Il y a malheureusement des invités qui acceptent de jouer le jeu pour différentes raisons, ce qui fait que le paysage médiatique devient de plus en plus, je parle de l'audiovisuel encore une fois, et je ne généralise pas, il y a des programmes et des émissions qui sont assez correctes, mais il y a peu de voix palestiniennes ou peu de voix, même françaises ou autres, qui mentionnent régulièrement le droit international, les sciences humaines. On est beaucoup plus dans la vitesse et dans le temps court, dans l'actualité, dans la nécessité de remplir un plateau, dans les 24 heures sur 24, les 7 jours sur 7. Toute cette culture a fait aussi qu'on a des experts de tout. On voit parfois les mêmes personnes qui sont sur le Mali, sur l'Ukraine, sur la Palestine, le Liban, qui peuvent intervenir sur n'importe quel sujet avec beaucoup d'assurance et avec des questions souvent qui ne cherchent pas à aller plus loin. On se contente donc d'un temps rapide, sans s'arrêter, prendre le temps, accepter qu'il y a des complexités. Et des complexités, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les comprendre, parce que ça peut être aussi après une excuse pour ne rien comprendre. Non, tout est complexe dans la vie et partout dans le monde. Mais on peut comprendre si on prend le temps et si on a envie de comprendre. Et de toute façon, quand il s'agit de valeurs universelles, quand il s'agit de droit international, il n'y a pas des questions qui se posent ici, mais pas là-bas, ou bien oui, mais cela ne marche pas là-bas, parce que ça, c'est le culturalisme ambiant qui crée aussi des clivages et qui considère que les vies des personnes dans une région du monde ne sont pas à égalité avec les vies d'autres personnes. Et on peut utiliser l'argument le plus facile. De toute façon, ils sont habitués à la guerre et la violence, elle fait partie de leur quotidien, comme si les gens là-bas, dans leur ADN, sont nés pour tuer et se faire tuer. Et cela, on le voit même chez quelqu'un qui était dans l'exception, culturellement parlant, intellectuellement parlant, du côté des États-Unis, Barack Obama. Quand il parlait de la Syrie, par exemple, il disait que, de toute façon, ils sont habitués, la violence là-bas s'est installée depuis très longtemps. Donc, encore une fois, on décontextualise un conflit, on l'inscrit dans une continuité où on ne voit que la violence, rien d'autre, ce qui appauvrit toute la compréhension, l'analyse, et la couverture après des médias. Et je termine juste par une chose, c'est qu'à Gaza, on disait souvent « Ah, mais le problème, il n'y a pas de journalistes étrangers, il n'y a pas d'Européens ou il n'y a pas d'Occidentaux. Ah. » Donc les journalistes gazaouis eux-mêmes n'ont pas la crédibilité que peut avoir un journaliste occidental, même s'il arrive et ne connaît pas vraiment son terrain, mais il arrive à prendre des clichés, à couvrir. Les journalistes gazaouis, leurs paroles, même s'ils sont ciblés et tués par l'armée israélienne d'une manière régulière et parfois presque quotidienne, afin qu'ils ne puissent pas s'exprimer et couvrir.
Quotidienne et préméditée.
Et préméditée, on voit les frappes de drones qui les suivent, on voit les bombardements ciblés, comme vous dites. Mais, donc déjà, ce territoire, on a prétendu que c'est l'absence des journalistes occidentaux qui a causé une couverture biaisée ou une couverture qui n'a pas tenu compte pendant un long moment de la réalité du génocide lui-même. Mais là, au Liban, il y a des journalistes occidentaux, étrangers, qui peuvent circuler normalement dans le pays, sauf dans la zone occupée par Israël, où ils sont interdits d'accès. Et donc, en soi, cela en dit long sur la pratique israélienne qui cherche toujours disons, virer les journalistes, ne pas leur permettre d'enquêter, d'écrire, de couvrir, tout en préservant un porte-parole de l'armée qui raconte la version israélienne et parfois montrant des vidéos sur lesquelles on voit des crimes de guerre, mais qui deviennent des crimes presque... comment dire, on ne sent pas à
on
quel
est à
point...
à distance, impersonnel.
Oui, et sans présence d'humain, puisque ce sont juste des explosions de loin, de villages, qui passent et on tourne la page et on reçoit d'autres images plus tard qui nous font oublier les premières.
Alors justement, vous me faites une transition parfaite, parce que je voudrais qu'on parle d'Amal Khalil, qui est une journaliste libanaise qui a été tuée le 22 avril, si on peut voir sa photo. Donc elle a été tuée dans un bombardement israélien dans le sud du pays. Et je voudrais qu'on voit comment sa mort a été évoquée sur BFM par le général Sidos, qui est un ancien responsable de la FINUL, la fameuse force d'interposition des Nations Unies au Liban.
Mais d'abord, il nous faut évidemment avec vous ce soir parler du Liban, avec une toute dernière information, Lisa.
Oui, parce qu'une journaliste libanaise a été tuée dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, dans la ville d'Al-Tiri. Elle s'appelait Amal Khalil. Elle travaillait pour le journal Al-Aqdar en tant que correspondante au Liban et elle a été retrouvée dans les décombres par des ambulanciers, escortés par l'armée libanaise.
Je vois votre réaction à cette information.
Alors, Al-Aqdar, c'est un journal proche du Hezbollah. Et les Israéliens ont l'habitude de dire que les journalistes qui travaillent avec le Hezbollah sont des espions qui travaillent pour le Hezbollah. Donc là, c'était ciblé. À partir du moment où on donne le nom du journal, c'est ciblé. C'est clair, net et précis. Et Al-Aqdar, je l'ai un petit peu consulté aujourd'hui, effectivement, déjà. Oui, c'est très, très, très pro-Hezbollah.
Je voudrais juste, si on peut laisser l'image sur pause une seconde en régie. Ah, trop tard, mais c'est pas grave, on la remettra. Et préciser aussi que, donc, juste si on pouvait remettre l'image, le parallèle avec la frappe sur l'écran juste à gauche était assez intéressant. Je sais pas si on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver? On va y arriver. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait cette image satellite, encore une fois, la dépersonnalisation et la mise à distance du crime, finalement, parce que là, on a une journaliste qui est tuée. Et voilà, on a cette image, enfin, ça y est, elle est là. Voilà.
Oui.
Et préciser aussi que la SDJ, donc la Société des journalistes de BFM TV, a publié un communiqué en disant que cette intervention n'aurait pas dû avoir lieu, que c'était pas normal de remettre en cause comme ça le profil d'une journaliste, quelle qu'elle soit. Encore une fois, on a l'impression de se retrouver à Gaza il y a 2 ans, c'est-à-dire tous ces journalistes tués, mais dès qu'on essaye d'évoquer leur mort dans une frappe israélienne, on dit « Ah oui, mais en fait, ils ne travaillaient pas pour le bon journal, pas pour la bonne télévision, pas pour la bonne radio. » Et en fait, finalement, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu membres du Hezbollah, ces journalistes ?
Oui. Alors, moi, ça me rappelle aussi un tweet, je pense, d'une journaliste française qui dit qu'il n'y a pas de journaliste palestinien, que le journalisme était un concept occidental et qu'il n'existe pas là-bas.
Géraldine Vosner, qui est rédactrice en chef au Point. Ouais. Je la cite parce que
oui, d'accord.
Tout le monde connaît cette histoire.
Non,
ici,
bien
donc,
sûr,
je la précise.
Donc, déjà, pour moi, ça révèle d'une manière culturaliste, déjà, pour ne pas dire raciste, comment on voit les personnes qui font leur travail de journalisme de l'autre côté de la Méditerranée, ou dans ce cas-là en Palestine, qui, certains, à mon sens, ont beaucoup plus d'éthique, de travail et de journalisme et de savoir-faire journalisme que beaucoup de journalistes ailleurs. Mais déjà, en disant cela, on est en train de nier l'appartenance à une communauté qui est celle des journalistes qui travaillent pour couvrir et pour renseigner, pour expliquer, pour témoigner. Cette occultation de ce qu'est des personnes ou de ce qu'ils font est déjà un moyen de les mépriser et de relativiser ce qui peut leur arriver puisqu'ils ne sont pas journalistes, donc ce n'est plus mon affaire. La deuxième chose, c'est imaginer si on applique la même démarche par rapport à des journalistes dans d'autres cas, en disant que oui, mais ils sont proches d'un tel mouvement ou d'un tel parti ou d'une telle idéologie, et donc ça justifie les prendre pour cible et les assassiner. C'est extrêmement grave et irresponsable. Et de dire qu'elle est dans un journal qui est proche de Hezbollah, ça veut dire que tous ceux qui travaillent dans ce journal peuvent être, d'une manière légitime, ciblés par Israël. D'autant plus qu'on montre un jeu vidéo, parce que la guerre aussi s'est menée à travers la propagande israélienne, par cette idée de montrer les vidéos des drones qui frappent un bâtiment ou une cible. On ne voit pas après les corps déchirés, ni les maisons détruites, ni les meubles, ni les voitures, ni rien. C'est juste technique, neutre, froid, distant. Et l'histoire du meurtre de cette journaliste, c'est qu'elle a été frappée une première fois. Elle a trouvé refuge dans une maison à côté avec une autre journaliste, qui est toujours hospitalisée. Et l'avion les a poursuivis dans l'autre maison, a détruit la maison et elle est restée sous les décombres pendant de longs moments, puisque une première ambulance est arrivée, elle a été visée par un drone pour qu'elle ne puisse pas intervenir et la sauver. Et puis, il y a eu beaucoup de négociations pour finalement permettre à la Croix-Rouge libanaise d'arriver, de chercher les deux personnes. L'une, heureusement, a survécu, mais est hospitalisée, et l'autre, Amal Khalil, a été tuée. Donc on voit l'acharnement israélien dans ce crime contre un journaliste, et on est aujourd'hui à 11 journalistes libanais et libanaises qui ont déjà été tués au Liban, deux, il me semble, dans la première phase guerrière, et 9 depuis le début de cette nouvelle guerre, dont 3 étaient frappés dans la même voiture qui avait aussi le slogan de la presse et qui a été ciblée par l'avion israélien.
– Alors, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de regarder, c'est qu'on a absolument tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire d'abord on a un militaire ou ex-militaire français qui parle,
oui,
qui sont maintenant sur tous les plateaux comme si c'était
normal. – Oui, ni il est expert de la situation libanaise, ni de la configuration du conflit actuel.
– Il a dirigé la FINUL quand même.
– Oui, il a été présent sur place pendant un moment en tant que
ça donne une
technocrate
expérience.
Militaire, mais ça ne lui donne pas… l'expertise de discuter ou d'analyser la situation.
Donc on a ça, on a un militaire et qui en plus reconnaît tout de suite en disant c'est un assassinat ciblé. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui sur un plateau dit oui c'est un crime de guerre, mais évidemment n'est pas qualifié de crime de guerre.
Oui, n'est pas qualifié de crime de guerre parce qu'on lui donne la justification, parce que la journaliste est proche de Hezbollah via son journal. Donc ce sont les raccourcis extrêmement dangereux et on les a vus dans cette séquence.
Alors tout à l'heure, on a parlé de la différence de traitement des vies israéliennes et des vies soit libanaises, soit gazaouis. Je voudrais qu'on voit la façon dont est traité l'ambassadeur d'Israël, qui s'appelle Joshua Zarqa, qui en effet est le deuxième interlocuteur privilégié des médias français. Et il a sur son téléphone une application un peu spéciale, mais que les Israéliens connaissent bien. On va regarder des extraits, c'est sur tous les plateaux des chaînes d'info.
Merci d'être avec nous, ambassadeur d'Israël en France. Je vous ai vu tout de suite regarder votre téléphone portable en arrivant dans ce studio.
Oui.
Pourquoi ?
J'ai une application qui sonne à chaque fois que des missiles tombent sur mes enfants.
À proximité de vos enfants ?
Ils sont
menacent
visés. S'ils sont visés.
Votre famille ?
Oui.
Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, vous ?
Tendu.
Tendu ?
On voit que vous avez à côté de vous toujours votre téléphone,
oui,
parce que ce sont deux incarnations de la guerre, des soldats qui tombent, et vous, avec ce téléphone qui vous donne des indications d'alerte de missiles qui sont tirés en Israël. Comment ça marche, votre téléphone ?
C'est votre famille, donc, qui est au...
C'est mes enfants.
Vos enfants sont au bout du fil, en quelque sorte.
On se souvient que des responsables israéliens avaient expliqué comment la moitié des stocks avaient été détruits.
Ça, c'est mes enfants.
Alors, que dit l'application ? Donc, vous vivez au rythme, bien qu'en France, vous vivez au rythme de ces alertes-là.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans notre monde, la diplomatie est en état de mort cérébrale, un pronostic vital largement engagé ? Comment vous l'expliquez ?
Parce que, vous savez, il y a...
Voilà. Vous venez de recevoir une alerte.
L'ONU est devenue une institution qui est abusée.
Excusez-moi. C'est un problème qu'on vient de vivre en direct.
Non, c'est les alertes.
Les alertes à l'application.
Excusez-moi.
Il n'y a aucun problème, monsieur l'ambassadeur.
Du coup, ils vont aller dans un abri.
Ils sont dans un abri.
Ils sont dans un abri.
Ils sont dans un abri.
Ils supportent comment cette situation ?
Vous dites quoi à vos enfants qui... vivre avec ces alertes en permanence et avec cette menace qui est une menace existentielle pour Israël.
Est-ce que vous voulez prendre un moment pour envoyer un message à votre famille, monsieur l'ambassadeur ? Ce qu'on pourrait parfaitement comprendre.
Alors, j'ai oublié de préciser que c'était un montage qui a été réalisé par nos confrères d'Acrimed, et on les en remercie parce qu'on a découvert ces images. Et vous aussi, Ziad Majed, je vous ai entendu dire, c'est incroyable.
Oui, c'est incroyable parce que je n'avais pas vu toutes ces images. Je pensais que ça s'est arrivé une ou deux fois, mais je vois à quel point c'est orchestré à la fois par l'ambassadeur et par la complicité des questions. Et je peux comprendre très bien la sympathie que suscite toute situation où des enfants sont menacés, où n'importe quelle vie est menacée. Mais jamais le même traitement a été autorisé avec des Palestiniens, si jamais ils sont invités. Jamais on a parlé des Iraniens sous les bombes, ou des Gazaouis sous les bombes, ou des Libanais sous les bombes, de la même manière, et sur un studio en direct avec des applications, sachant qu'on peut, par rapport à l'Iran, dire tout ce qu'on veut du régime iranien, de ses crimes, du fait que beaucoup d'Iraniens veulent tourner sa page, qu'il y a eu des soulèvements contre le régime. Mais cette guerre-là, c'est une agression israélienne et américaine contre l'Iran, qui n'a pas eu de résolution onusienne pour la couvrir, qui n'était pas dans une guerre d'autodéfense légitime. Donc on est dans un cadre où une agression militaire a eu lieu, avec des ripostes qui aussi violent le droit international, puisque les missiles peuvent tomber sur des civils. Tout ce scénario où des enfants gazaouis et libanais et autres sont bombardés régulièrement passe occulté. Et puis, il y a l'ambassadeur qui est reçu régulièrement, rarement contredit, et qui montre à quel point sa famille souffre. Et il se peut que ça soit le cas, je veux dire, cette souffrance. Mais la mettre comme ça, dans des discussions, dans des débats en direct, sans que quelqu'un lui pose la même question par rapport aux enfants de l'autre côté qui sont bombardés, je trouve ça vraiment incroyable.
Et d'ailleurs, je crois que c'est le journaliste de France Info qui a une phrase terrible qui dit « il y a deux incarnations dans ce conflit, il y a vous, Joshua Zarqa, qui êtes sur le plateau, et il y a les soldats américains tombés au combat », d'ailleurs un langage oui. militaire, tombés au combat, mais sous-entendu… Vous êtes les Israéliens et les Américains, les victimes de ce conflit.
Exactement, les victimes. Et là, on dit souvent aussi dans les mêmes médias que mais l'armée israélienne prévient avant de frapper au Liban, par exemple. Il y a le porte-parole arabophone qui dit on va frapper telle ou telle zone dans une heure, ou bien qui donne l'ordre d'évacuation de telle zone ou de telle autre zone. Alors, d'un côté, cela n'est pas quelque chose qui se passe tout le temps, puisqu'il y a énormément de frappes sans aucune alerte et il n'y a pas les applications. Donc l'aviation arrive et détruit et tue, d'autant plus que c'est asymétrique. Donc les missiles qui prennent beaucoup de temps pour arriver avec tous les systèmes américains de destruction de ces missiles qui se mettent en place, qui envoient les alertes très sophistiquées. De l'autre côté, il n'y a rien, puisque le chasseur ou le bombardier ou le drone arrive en quelques secondes et détruit. Mais même, imaginez la situation dans un immeuble à qui on dit aux gens « vous avez une heure pour partir ». Un immeuble de 12 étages ou de 6 étages avec tous les appartements, avec les gens qui commencent à ramasser, à choisir, à trier entre ce qu'ils peuvent sauver et ce qu'ils vont sacrifier de force. Les enfants qui ont peur, qui crient. Les parents, si un est absent et il va prendre connaissance du fait que son foyer va être détruit et tout l'immeuble va tomber, alors il se précipite pour aller aider à sauver, ou bien il leur demande juste de quitter. Donc la terreur et la peur qui s'imposent dans ce genre de moment, et de toute façon, quand c'est des bâtiments ou des installations ou des infrastructures ou des immeubles civils, peu importe s'il y a une alerte ou pas, ça reste un crime de guerre. La seule chose qui permet ou autorise de cibler un site reconnu comme non militaire, c'est quand il est utilisé pour des fins militaires. Il perd sa protection. Mais un bâtiment, même s'il y a un membre de Hezbollah qui vit dans un immeuble mais il y a 30 appartements dans l'immeuble. Donc, détruire tout l'immeuble, ce ne sont pas des dégâts collatéraux, ni des boucliers humains. Ce sont des civils qui ont été visés et c'est un crime de guerre. Donc, on voit la couverture n'explique pas tout cela, ne donne pas le temps aussi à quelqu'un de venir expliquer comment ces enfants ont dû évacuer leur maison, leurs jouets, leurs livres, leurs souvenirs, les lettres qu'ils échangeaient avec leurs amis, leurs secrets, et que tout va se transformer en ruine quand le bombardement ait lieu. Et donc, c'est encore une fois deux poids, deux mesures, deux regards différents. C'est une reconfiguration du regard vers des humains qui ne sont pas traités d'une manière égale.
Vous dites qu'il n'y a personne pour expliquer. Est-ce que vous iriez, vous, si on vous disait qu'il y aura Joshua Zarqa en plateau, par exemple ?
Non, parce que moi, je suis prêt à expliquer, si j'ai le temps, d'un côté, et avec des chercheurs, avec des journalistes, avec des personnes qui partagent le monde universitaire, mais je n'ai rien à faire avec un ambassadeur ou un représentant de l'État israélien. Peut-être si l'ambassadrice de la Palestine accepte, ou l'ambassadeur du Liban ou autre, c'est leur droit et leur devoir, peut-être si jamais ils acceptent et si ils sont invités. Mais pour le moment, on voit qu'il y a soit un porte-parole de l'armée israélienne, soit l'ambassadeur, qui sont là à prendre leur temps, à expliquer, à montrer certaines situations et à utiliser les termes qui finalement ont été adoptés en grande partie sur beaucoup de plateaux en France et ailleurs.
Alors, pour finir, je voudrais qu'on vous voie, vous, Ziad Majed, sur le plateau de France Info. Vous essayez de parler de Gaza et de la notion de génocide et des crimes qui sont reprochés à Benjamin Netanyahou. Et il n'y a pas de représentant d'Israël en face de vous. Il y a un journaliste de France Info qui, visiblement, n'est pas d'accord avec vous.
De Netanyahou lui-même, c'est un monsieur qui est recherché par la Cour pénale internationale, qui est sous mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Son gouvernement est accusé de génocide. Donc les Iraniens utilisent ce genre de message.
Accusé de génocide par qui ? Alors, pour l'instant, pas officiellement. Hein.
Accusé par Amnesty International, par Human Rights Watch, par toutes les commissions onusiennes, par 86% des experts du génocide.
Ce ne sont pas ces institutions qui sont censées porter l'accusation. Il y a d'autres institutions qui contestent le terme.
Il n'y a aucune institution qui conteste le terme. Dites-moi.
Je voulais retrouver,
Il y a deux Israéliens aussi qui
confirment.
L'ONU ne se mêlera de cela.
L'ONU.
Non, monsieur, moi, je ne laisse pas passer les questions du droit international sur un plateau. Donnez-moi une seule institution de droit qui ne dit pas que ce n'est pas.
Les Nations Unies. Et derrière, il y a toute la question des guerres qui sont parfois illégales, mais qui peuvent être légitimes.
Au niveau de leur commission. OK, vous voulez crime contre l'humanité ?
Non. Je vous dis simplement qu'il y a une théorie qui circule et qui dit qu'il y a des guerres qui sont considérées comme illégales au regard du droit international et qui pourtant sont légitimes. Il y en a eu menées par le passé qui n'ont pas posé problème. Je pense notamment au Kosovo.
Qui n'est pas juridique.
Et l'ONU n'a pas pour l'instant qualifié de génocide.
Vous voulez qu'on en parle de
passé.
Ça, moi je suis partant et je connais assez
c'est
bien
vous qui avez ouvert la porte.
Oui, je continue. Et les organisations israéliennes aussi, comme Bethlehem, comme Physicians for Human Rights, qui le confirment.
Il y en a qui le contestent.
Ils confirment que c'est un génocide.
Il y en a qui le contestent.
Il y en a qui le contestent, surtout d'un point de vue politique. Et il n'y a pas, dans l'histoire du droit international, un génocide où toutes les institutions l'ont qualifié ainsi. Et de toute façon, si vous ne voulez pas le mot génocide, la Cour pénale internationale le recherche pour crime contre l'humanité.
Oui.
Donc c'est un criminel contre l'humanité.
Alors, bon, au-delà de la violence de l'échange et de la tension qu'on sent, vous n'êtes pas le premier sur le plateau de France Info, parce que Daniel Obono, qui est député LFI, a vécu à peu près la même interview, pas avec le même journaliste. Est-ce que vous l'aviez vu d'abord l'interview de Daniel Obono ? Est-ce que vous saviez qu'en parlant de génocide, vous risquiez peut-être de déclencher une réaction, peut-être pas aussi épidermique, mais en tout cas, vous saviez que ça serait un peu tendu. Quoi.
Non, alors j'ai vu la vidéo plus tard.
D'accord.
Et je trouve qu'elle a très très bien répondu en lui disant « je vous laisse être dans la négation ou négationniste ». Mais je ne l'avais pas vu avant. Et je ne cherche pas le buzz en utilisant le terme « génocide », mais je l'utilise quand même à chaque fois parce que je pense qu'il y a eu une terreur et une volonté de censurer un terme juridique qui a été comme je l'avais cité lors de ce petit passage, qui a été utilisé par les plus grandes organisations internationales des droits humains, que ce soit Amnesty, Human Rights Watch ou la Fédération internationale pour les droits humains, les services juridiques de MSF, les 86% des juristes qui sont les experts dans l'association des études du génocide ont voté pour adopter ce terme. Le plus grand historien du génocide en Israël même, qui ne vit plus en Israël aujourd'hui, mais Omer Bartov, adopte ce qualificatif. Des commissions onusiennes l'ont également adopté, Albanese l'a adopté. Donc, d'un point de vue juridique, il n'y a pas un consensus, parce qu'il n'y a jamais de consensus, mais il y a une écrasante majorité qui adopte le terme de génocide. Et il y a une hystérie à chaque fois que ce terme est utilisé. Et c'est pour ça que moi, je refuse de m'auto-censurer et j'insiste à l'évoquer, parce que je pense qu'il décrit ce qui s'est passé à Gaza. Ce que je trouve aussi anecdotique, c'est que les mêmes personnes qui disent non, pas génocide et qui cherchent des précisions, bien que le monsieur a commis énormément d'erreurs, parce que évidemment les Nations Unies ne se prononcent pas en tant qu'organisation, ils ne sont pas une autorité juridique, ils parlent d'une théorie qui est très dépassée et qui n'a aucun sens, ni juridiquement parlant, ni politiquement parlant, celle de la guerre légitime face aux guerres légales. Ça, c'est un autre débat. Donc, il ne connaît pas du tout le dossier. Mais ce n'est pas ça la question. C'est que même, vous voulez qualifier Netanyahou de criminel contre l'humanité, puisqu'il a été condamné, ou du moins, il y a un mandat d'arrêt. Il n'est pas condamné, mais il y a un mandat d'arrêt contre lui pour crime contre l'humanité. Non. Donc, c'est une volonté tout le temps. Soit de censurer des termes du droit international, soit de défendre Israël. Et du côté israélien, le terme génocide, évidemment, a été rendu tabou et tous ceux qui l'utilisent ont été criminalisés ou accusés de vouloir faire tort à l'État d'Israël. Car le récit officiel d'Israël, c'est que cet État a trouvé une partie de sa légitimité, étant donné que ceux qui l'ont construit étaient eux-mêmes en partie des survivants du génocide et donc de la Shoah, de la barbarie nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait que l'usage du terme, s'agissant d'Israël, plus personne n'a droit de l'utiliser. Et en Europe, étant donné que les Européens étaient eux-mêmes impliqués dans le génocide des Juifs européens, donc il est difficile de percevoir que l'État d'Israël puisse commettre un crime qui a été commis en Europe avant contre les Juifs européens. Alors, non seulement cela n'a pas de sens d'un point de vue juridique, parce que la question dans le droit international est par rapport à la description et à l'analyse et au travail sur la documentation du crime, de l'intention de commettre le crime, et puis de ce qui s'est passé véritablement sur le terrain.
Parce qu'il faut toujours rappeler, pardon, je vous coupe une seconde, mais il faut toujours rappeler que le génocide n'a pas besoin d'aboutir, entre guillemets, c'est l'intention génocidaire.
Exactement. Il y a l'intention génocidaire, et puis il y a l'acte. Et quand la Cour internationale de justice, déjà en janvier 2024, prévient et demande des mesures provisoires pour prévenir le crime de génocide, pour empêcher que le risque génocidaire se transforme en réalité, c'était 2024. Aucune des mesures n'ont été respectées et prises, que ce soit l'armement, que ce soit la fin du blocus israélien, que ce soit l'arrêt des bombardements, de ne plus cibler les hôpitaux. Au contraire, ça s'est accéléré, accentué après. Mais de toute façon, le problème, c'est que on a aussi créé une exception israélienne, non seulement par rapport à l'impunité, mais aussi par rapport à l'usage des termes. Il ne faut jamais qualifier les actes d'Israël de crimes. Il ne faut jamais parler de génocide quand l'armée israélienne génocide une partie du groupe qui est le groupe des Palestiniens de Gaza. Parce que le génocide, dans les esprits, c'est aussi des millions de victimes. Si ce n'est pas des millions, donc ce n'est pas un génocide. Or, la Convention de 1948, elle est très claire. On parle d'un groupe ou d'une partie du groupe et on parle de l'intensité, d'intention,
de l'intention.
Et donc de la volonté de détruire un groupe.
Et Srebrenica l'a bien montré, entre guillemets.
Srebrenica l'a bien montré et il y a beaucoup de cas dans l'histoire qui peuvent être dans ce cadre de description de ce qui s'est passé. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a créé un écran de protection vis-à-vis d'Israël qui cherche à considérer que c'est un État au-dessus de la loi, qui est impuni et qu'il ne faut pas qualifier de criminel quand il commet des crimes. D'ailleurs, c'est tellement pudique dans les médias aussi quand on parle de la Cisjordanie et du fait qu'il y a un système d'apartheid qui est reconnu par les Nations Unies à travers leur commission, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'organisation avec l'Assemblée générale qui se réunit et qui décide, toutes les commissions concernées. La Cour internationale de justice l'a confirmé en 2024. Les organisations israéliennes elles-mêmes en avaient parlé pendant longtemps, les organisations palestiniennes, les organisations Amnesty, Human Rights Watch et autres. Donc, il y a un apartheid, il y a une occupation, il y a une colonisation. Et la colonisation, ce ne sont pas juste quelques maisons préfabriquées sur des collines, ce sont maintenant des villes qui confisquent les terres palestiniennes, qui confisquent l'eau, dont les habitants parfois mènent des campagnes de pogrom contre les villages palestiniens à proximité. Il y a comme une pudeur au niveau des termes à utiliser ce qui qualifie ce qui se passe par les mots et par les termes qui conviennent, qui correspondent. Et toujours, c'est une relativisation et une volonté de protéger
Israël.
Ouais. Et malheureusement, certains journalistes, ils sont dedans.
J'ai une dernière question, peut-être plus personnelle, non, mais c'est un secret pour personne. Vous êtes franco-libanais.
Oui.
Vous êtes né au Liban. Le Liban est votre deuxième, premier, oui, autre pays, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez déjà senti chez les journalistes ou chez d'autres personnes croisées en plateau un soupçon de partialité parce que vous êtes libanais, parce que vous êtes franco-libanais?
C'est-à-dire qu'il me considère...
Est-ce que vous avez déjà senti qu'on se disait « Oui, mais évidemment, il est franco-libanais. »
Oui. Non, en fait, c'est toujours assez curieux parce qu'il y a deux questions, à mon avis, qui sont importantes. D'un côté, étant franco-libanais, certains m'invitent parce que je connais mon pays d'origine. J'y ai vécu 35 ans. J'ai connu toute la guerre civile. J'ai fait une thèse de doctorat à Sciences Po sur le Liban. J'y vais régulièrement. Même durant cette guerre, j'ai été deux fois. Mes parents sont là-bas. Mes amis sont là-bas. Donc, peut-être pour certains... J'ai une certaine authenticité, il faut m'inviter. Pour d'autres, ils souhaitent parfois inviter d'autres Libanais qui ont un autre point de vue pour montrer que finalement, ça relativise ce que j'ai dit parce que je ne parle pas au nom des Libanais. Et évidemment, je ne prétends jamais que je parle au nom de tous les Libanais. Et il y a aujourd'hui beaucoup de divisions au Liban par rapport à Hezbollah, par rapport à cette guerre, par rapport à comment gérer l'avenir avec les Israéliens, négociations, résistance militaire, que faire pour que le cessez-le-feu soit la réalité, etc. Donc, il y a ça. Mais il y a autre chose aussi, c'est que beaucoup de Libanais s'attendaient à une autre couverture médiatique française quand il s'agit du Liban.
Parce que pays francophone,
parce que c'est un pays francophone, ami, parce qu'une bonne partie de sa société a été en contact direct avec la France, soit à travers les missions laïques ou catholiques, l'échange culturel, il y a des salons du livre, et il y a tous les souvenirs pour au moins deux générations de l'attention française et de l'intérêt français par rapport à la sécurité du Liban. Tout le monde se rappelle à Beyrouth de Jacques Chirac et de ses prises d'opposition lors de la guerre israélienne de 1996, la guerre de 2006, tout un autre vocabulaire, avec aussi une couverture médiatique. Disons, il y avait des hauts et des bas, mais un traitement un peu spécial aux Libanais. En plus, il ressemble à un modèle occidental un peu, qui les rend plus sympathiques, plus accessibles, plus exotiques aussi, parce qu'ils parlent aussi une autre langue, parce que c'est, comme on dit, le pont entre l'Est et l'Ouest. Tous ces clichés qui ont une part de réalité et une part de fantasme, si vous voulez. Mais on est surpris et étonné que finalement, ça n'a pas été le cas cette fois. Alors, à la fois pour deux raisons, parce qu'il y a un aveuglement s'agissant d'Israël et de ses priorités et de ce qu'elle considère être, de ce qu'il considère être sa guerre contre un terrorisme et une menace permanente, etc. Et de l'autre, parce que la catégorie de Libanais, ou les Libanais du Sud-Liban, notamment, et qui sont à majorité chiites, mais pas que, ont un look moins occidental que d'autres Libanais qui sont à Beyrouth ou dans le Mont Liban ou ailleurs ou ici en France, à Paris, parce qu'ils ressemblent un peu plus aux Palestiniens qu'à l'image construite des Libanais et des Libanaises, notamment en France ou ailleurs.
Disons-le, ils font plus arabes.
Ils sont plus arabes et plus musulmans. Ouais. Et il y a des femmes voilées, il y a des familles nombreuses. Donc, ça renvoie automatiquement à l'idée de l'autre, arabe, musulman, inférieur, un peu comme les Palestiniens. Et ça justifie soit un manque d'empathie, une déshumanisation, si on veut pousser les choses encore plus, et une position pro-israélienne ou, disons, neutre par rapport aux pertes civiles. Si peut-être les cibles étaient, ou les Libanais, Libanaises ciblées étaient différents. Je ne sais pas si la couverture serait exactement la même, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une position déjà prise par beaucoup de médias, notamment dans l'audiovisuel, dans la couverture de ces guerres-là, soit qui est éditoriale, soit qui est par le manque de connaissance de ce qui se passe dans la région, le recul des sciences sociales, le lexique ou la terminologie des militaires et la propagande israélienne présente. Ceci dit, il y a toujours des journalistes, évidemment, qui font un excellent travail, y compris dans l'audiovisuel, pas seulement dans la presse écrite ou au niveau des chaînes des radios. Et puis, il y a des programmes comme le vôtre, comme ce que vous faites sur Arrêt sur Image ou ce que fait Acrimed dans sa critique également du paysage médiatique. Il y a beaucoup de travail qui se fait et qui est excellent. Et il y a beaucoup de correspondants dans la région qui couvrent très bien ce qui se passe également. Mais avec la culture de cette consommation médiatique rapide et des télécommandes, et on passe d'un plateau à l'autre, on doit remplir tout le temps le temps, malheureusement, ça peut passer s'il n'y avait pas des vies humaines en question et s'il n'y a pas l'existence de certaines sociétés en question.
Merci beaucoup, Ziad Majed. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. À très vite sur ce plateau.